prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Suite de l'étude biblique du sermon sur la montagne. 11e partie, les inquiétudes.
Nous allons ouvrir un passage dans notre Bible. Alors, je vais vous donner la référence d'ici quelques instants. C'est dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, c'est une leçon que Jésus donne à tous les hommes. Voilà, chapitre 6, verset 25. Et on se souvient encore de cette mémorable histoire où un jour, il y a une tempête sur le lac. Ça vous rappelle quelque chose probablement. Et Jésus s'est adressé à ses disciples qui étaient effrayés, qui étaient complètement paniqués à cause du vent, de la mer. Et ils pensaient que leur dernière heure était arrivée. Il leur a dit cette parole, « Pourquoi avez-vous peur ?» Voilà. Alors c'est vrai que ça paraît étonnant quand le bateau est prêt à passer par le fond et que les éléments, la nature nous submerge, nous dépasse, se dit mais c'est vrai que ça peut se comprendre. Et en quelque sorte, Jésus nous enseigne sur la question qu'il vient de donner à ses disciples, enfin cette réponse, cette interrogation à ses disciples. Et nous allons lire donc dans Matthieu chapitre 6. Verset 25, et il dit ceci, « En conséquence, c'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour. Suffit sa peine. Voilà une leçon, un enseignement d'une grande pertinence. Et on pourrait penser que ça c'était bien pour le temps de Jésus, mais 20 siècles et plus après, je pense que les hommes de notre temps ont certainement besoin de réviser ou de repasser cette leçon de Jésus, parce qu'il nous dit une chose qui devrait être une puissante consolation. Il dit cette parole. Toutes ces choses, naturellement ce sont les païens qui les recherchent, qui n'ont pas la foi, mais il ajoute ceci, « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, et je précise, pour autant que Dieu soit notre Père Céleste. » Parce que s'il n'est pas notre Père, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Qu'est-ce que nous pouvons espérer d'un Dieu qu'on ne connaît pas, d'un Dieu qui est perdu dans l'immensité du firmament de l'univers? Mais il est bien dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Parce que c'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui a créé les besoins naturellement conséquents, et c'est lui qui va, après avoir finalement lancé l'homme et la vie, son existence dans la carrière, c'est tout simplement lui qui va pourvoir. C'est ça ce que nous avons à comprendre. Alors, dans un monde où l'on entend parler de droite et de gauche, qu'il y a tant de gens qui sont dans une mortelle inquiétude, qui sont angoissés, qui sont aux prises avec la l'anxiété, qui ne dorment plus, qui ne mangent plus, qui sont complètement tétanisés devant les réalités du quotidien. Alors je pense que ça, c'est un message qui convient certainement à notre temps. On parle de stress. C'est bien véritablement ce qui est le propre de notre société d'aujourd'hui. Et pourtant, on ne devrait pas stresser. Écoutez, quand même, matériellement, on a tout ce qu'il faut, enfin, dans la plupart des cas. Hein, on a des maisons, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour nous soulager des tâches pénibles des anciens. On a des moyens de se véhiculer, d'aller d'un endroit à un autre, de voyager, enfin, bon. Et pourtant, je crois qu'on constate que l'homme n'a jamais été autant stressé. Alors, on est stressé au travail, on est stressé dans la circulation, on est stressé parce que notre patron nous en demande toujours de plus en plus, on est stressé parce qu'on est en train d'anticiper sur ce que sera demain, et quelquefois, eh bien, des idées négatives nous viennent à l'esprit en disant « mais on ne va pas y arriver ». Alors, c'est vrai qu'on est sur une montagne que l'on est en train de gravir, et puis, à chaque fois qu'on regarde vers le sommet, on s'aperçoit que le sommet, c'est un mirage. Ça va toujours de plus en plus loin, et voilà, ça rend les gens malades. Et pourtant, Jésus nous donne ses paroles. Elles sont toutes simples. Il dit, mais c'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Parce qu'il a parlé d'autre chose auparavant. Je ne l'ai pas lu. Mais il parle de deux trésors. Il parle d'un trésor qui est sur la terre, et il parle d'un trésor qui est dans le ciel. Tout dépend de la direction où nous regardons. Et il est bien vrai qu'il y a quand même deux natures derrière tout cela. Celui qui regarde au ciel a la foi, parce que finalement le ciel est tellement grand et Dieu est tellement est invisible, alors c'est vrai que... Hein, et c'est pourtant dans cette direction que nous devons regarder, parce que nous avons tout à attendre du ciel. Par contre, si nous regardons sur la terre, nous savons identifier les choses. On leur donne un nom, on sait comment ça fonctionne, on sait comment les utiliser, mais... À ce moment-là, ce n'est plus la foi. Et c'est bien le problème. C'est tout à fait l'économie de Dieu, je le répète, est totalement à l'inverse de l'économie des hommes, de la nature, de tout ce que nous avons autour de nous. Et c'est ce qui fait finalement eh bien, que les gens sont complètement perdus. Alors il faut revenir aux paroles de Jésus. Et je dis qu'un chrétien qui est à la fois en regardant au ciel et regardé vers la terre, tiraillé vers le haut et puis attiré vers le bas, eh bien c'est un homme, comme dit Jacques, qui est comme les flots de la mer, il est ballotté tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, et il nous est même dit à un moment donné que c'est un homme au cœur irrésolu et qu'il ne s'attend pas à recevoir quelque chose. C'est ça le problème. Et Jésus nous donne la réponse. Et c'est pourquoi, voilà, nous avons cela, parce qu'il faut lier ce chapitre que nous sommes en train d'étudier, au précédent. Un trésor dans le ciel, un trésor sur la terre. Alors il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit ? La première chose, et il le répète, ne vous inquiétez pas. Alors c'est difficile parce que peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est mort d'inquiétude. Eh oui, ça vous est peut-être arrivé ? Heureusement qu'on ne sait pas tout ce qui va nous arriver, hein. Heureusement qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, ni après-demain, ni dans un mois. Parce que là, je peux vous dire que ça serait terrible. Hein. Alors c'est bien comme ça. Jésus le dit aussi. Le lendemain suffit, chaque jour suffit sa peine. Hein. Alors demain, ça sera un autre jour. Mais de ne pas nous inquiéter. Et nous avons de bonnes raisons de ne pas nous inquiéter. C'est ce que je voudrais faire la démonstration. Parce que si nous nous inquiétons après avoir entendu le message, je recommence. Et c'est pas la première fois que vous l'entendez, ce message. Hein. Et oui, pourtant, on s'inquiète encore. Vous savez, on s'inquiète pour des choses, parfois, qui ne sont pas des réalités. C'est dans notre tête. C'est dans notre cœur. Les projections, les pollutions, tout ce qu'il y a parfois eh bien, dans notre environnement, nous imprègnent et nous démolissent. Ah oui. Il est arrivé ceci à celui-là. Et si ça m'arrivait aussi à moi ? Vous savez, il y a eu telle ou telle situation, telle ou telle circonstance, eh bien ça peut m'arriver aussi. Alors, si on part comme ça, c'est pas la peine. Et s'il y avait des gens qui pouvaient s'inquiéter par rapport à notre monde super ou supramatérialiste, où nous avons beaucoup de choses à notre disposition, c'était bien les contemporains de Jésus, ceux qui étaient avant Jésus. Après, dans les siècles passés, avant nous, ils pouvaient s'inquiéter parce qu'il y avait une précarité de l'existence. Vous savez, aujourd'hui, on s'inquiète parce qu'on se dit, bien, peut-être que je vais perdre mon travail dans un mois. Mais il y a encore des secours. Il y a encore de toutes sortes de choses. Mais quand on pense que le monde a fonctionné pendant des siècles et des siècles, où les gens travaillaient à la journée, et avec peu d'argent, et avec souvent des familles très, très nombreuses, c'est quand même un petit peu l'inverse aujourd'hui, hein. Alors, il n'y avait pas à ce moment-là Pôle emploi, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les allocations familiales. Alors Jésus nous a dit ça dans un temps où vraiment il y avait peut-être de quoi s'inquiéter, hein, où la vie était très courte, où il n'y avait pas de sécurité, de protection pour la santé, toutes sortes de choses. Un homme qui avait un accident, eh bien, voilà, il n'y avait peut-être pas grand-chose à faire. Hein. S'il disparaissait, c'était un drame. Mais s'il restait vivant et qu'il restait infirme, il n'y avait pas de secours, il n'y avait rien du tout. Alors, faut comparer ce qui est comparable. Et aujourd'hui, peut-être que au regard de ce que nous dit Jésus, je veux respecter tous ceux qui peuvent avoir des soucis, des tracas, mais dans la société dans laquelle nous sommes, je crois qu'on a vraiment besoin de réentendre et de nous imprégner des paroles de Jésus lorsqu'il nous donne comme un impératif, il nous dit « ne vous inquiétez pas ». Alors c'est plus fort que nous. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de choses, mais ça c'est dans l'homme, c'est au fond de notre cœur. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui bouge, une barque qui ballotte sur les flots, alors on commence à s'affoler. Et à ce moment-là, Jésus nous dit « mais pourquoi avez-vous peur ?» Alors je le disais il y a un instant, peut-être que quelqu'un est aux prises avec une peur au fond de son cœur et il a besoin d'entendre ce message cet après-midi et il a besoin de saisir dans la foi qu'il n'a pas raison ou qu'il n'a pas de raison d'avoir peur parce que le Seigneur est là, tout simplement. Alors, il va nous donner un petit peu plus d'informations. Il dit « ne vous inquiétez pas pour votre vie ». C'est bien ça ce qui nous préoccupe, notre vie. Oui. On a peur de la mort et on s'inquiète de la vie. On a peur de la vie parce qu'on a peur de manquer. On a peur de perdre. On a peur qu'on nous vole quelque chose. On a peur de toutes sortes de situations. Et c'est la vie, tout cela. Ne vous inquiétez pas de votre vie, parce que c'est quand même celui qui l'a créée qui va l'entretenir. Et pour des choses très élémentaires, puisqu'il est question de ce que vous mangerez. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez mangé ce midi. Mais qu'est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui, nous, dans notre société de consommation à outrance, de ce que nous avons à peu près, certainement, peut-être 2 milliards de gens, qui, eux, réellement, se posent la question de ce qu'ils vont manger, hein, quand ils ont quelque chose à manger. Et je pense que Jésus avait en vue probablement tous ces hommes, ces femmes, de son temps, des petites gens, des gens qui étaient certainement indigents, avec des situations de grande précarité, eh bien, il pouvait peut-être justement leur dire « Mais je comprends que vous puissiez vous inquiéter de votre vie, de ce que vous allez manger. Mais aujourd'hui, on n'a que l'abondance. » Alors, on est véritablement des enfants terribles, hein, dans notre société. On peut le dire. « De votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. » Alors, on n'a que l'embarras du choix pour la mode, hein, pour les modèles, pour les styles, pour tout ce que vous voulez, hein, c'est vrai quand même. Alors, on n'en a pas assez chez nous, on en fait venir d'Extrême-Orient, hein, des modèles. Alors, c'est vrai que quand on pense qu'il y a encore quelques siècles, hein, ou même peut-être moins que ça, hein, acheter un costume, ça représentait une fortune. Acheter une robe pour une dame ou une femme, un manteau. Peut-être que vous avez connu ça, hein. Eh oui, ça faisait du temps. Oui. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui nous convient plus, ça change un petit peu de... Hein, ça dénote un peu dans le courant. Alors à ce moment-là, on se dit, ben voilà, on ne se pose pas la question, on y va. Hein. Surtout que les commerçants, ils ont bien compris. Hein. Quatre soldes par an, hein, c'est bon. Hein. Alors on peut y aller. Hein. Tout ça, c'est de la consommation, naturellement. De quoi nous plaignons-nous ? Alors Jésus va retourner la question. C'est comme s'il entendait les gens dire, « Eh bien voilà, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Quelle sera ma vie ? et je m'ennuie, je me tracasse pour ceci, cela. Vous savez ce qui nous tracasse? C'est que nous n'avons que l'embarras du choix. C'est ça le problème. Alors il va répondre, il va dire, mais la vie, et c'est très pertinent, c'est très judicieux ce qu'il nous dit, écoutez bien. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? C'est pas lui qui répond, c'est lui qui pose la question. C'est à nous de répondre. Ce que vous avez vu, c'est une forme interrogative. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? La vie, c'est le principe même. La nourriture, c'est ce qui entretient la vie. Si on a la nourriture et qu'on est mort, ça sert à quoi? Eh oui, le corps plus que le vêtement. Mais Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Parce que c'est la même chose, c'est le même principe, hein, je ne vais pas le répéter. Mais c'est exactement la même chose, le même raisonnement. Alors, quand on voit que les gens sont en train de se chamailler pour des choses qui ne sont pas l'essentiel, et qui se battent, qui s'entretuent pour finalement ce qui n'est que l'accessoire, dont Dieu a fait la promesse qu'il pourvoirait, parce que c'est ça la question. Il est le donateur de la vie, donc du corps et de la vie, ça c'est l'essentiel. Maintenant, il y a l'accessoire, il y a le complément, il y a ce qui l'entretient, c'est-à-dire manger et se vêtir. Et vous allez voir que dans la suite, Dieu a donné en tant que créateur, et comme il est le créateur, eh bien il va pourvoir au reste. C'est pour ça que lorsque nous avons un problème qui touche des choses importantes ou primordiales pour nous, eh bien vous pouvez être sûr qu'avec Dieu, quand il y a problème, il y a toujours solution. Parce que ça va ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Et souvent, nous nous mettons dans des états pas possibles et nous disons à Dieu, « Eh bien, Seigneur, tu ne me donnes pas ceci, tu ne me donnes pas cela. » Ça veut dire, mais de toute façon, pourquoi tu m'as créé alors ce moment-là? Alors que d'une manière parfaite et absolue, Dieu va s'engager dans une chose, et il donnera son complément. Avec la vie, il y a la nourriture, et avec le corps, il y a le vêtement. Et il y a du choix. Et il y a de la diversité. Certainement. On a entendu des témoignages extraordinaires où certains chrétiens, certains croyants, se sont trouvés dans des situations épouvantables de dénuement. Et il n'y avait rien en haut, ni rien en bas. Il n'y avait qu'une chose qu'ils pouvaient faire, c'est de prier et crier à Dieu. Et quand ils ont fait cette démarche, quand ils ont été chercher leur trésor dans le ciel, pas sur la terre, il n'y avait plus rien sur la terre. Il n'y avait pas de trésor pour eux. Ils étaient complètement démunis. Alors à ce moment-là, quand ils ont compris, parce que ce sont des croyants dont je parle, quand ils ont compris qu'il ne fallait pas regarder en bas, parce que c'est négatif en bas, c'est destructeur, c'est désolant, et qu'ils ont regardé en haut, alors à ce moment-là, ils ont vu. On peut dire ils ont vu, ils ont touché. Ils ont réalisé que celui qu'ils avaient invoqué, celui qui détient les trésors dans le ciel, eh bien, les a fait descendre sur la terre. Vous connaissez l'histoire de la femme, la veuve de Sarepta? Et j'en passe à des meilleurs comme ça dans la Bible. Et aujourd'hui encore, combien nous avons vu Dieu, ou nous-mêmes, dans des situations où nous étions pris au dépourvu, et de dire, mais Seigneur, que je regarde d'un côté ou je regarde de l'autre, il n'y a rien, je ne peux pas m'en sortir. Et là, dans un mouvement où tout simplement saisir par la main de la foi, de voir Dieu agir et de dire, mais Seigneur, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui nous attend là-bas, et il voudrait bien ouvrir les écluses plus souvent. Mais nous disons, Seigneur, mais est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Et nous sommes toujours en train de discuter. Raison de nos inquiétudes, hein. Alors la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, le vêtement? Nous l'avons dit, point d'interrogation, c'est à nous de répondre. Et pour nous aider à bien comprendre la leçon, Jésus va en quelque sorte nous déployer une illustration, une image. Parce que c'est ça, hein, la pédagogie de Jésus. Et il dit tout simplement, regardez. Alors on a parlé du regard tout à l'heure, en bas, en haut. Il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Il y en a un qui construit, l'autre qui détruit. Regardez les oiseaux du ciel, puisqu'il est question du ciel. Vous savez, ces petites bêtes-là qui volent, il y en a tout autour de nous. Hein, ils sont divers, ils sont plus ou moins grands, gros, de différentes couleurs, hein, et on les entend. Alors quand on regarde les oiseaux du ciel, ça devrait nous inspirer qu'il y a quelque chose qui s'y passe dans le ciel, et pour ces oiseaux. Et Jésus précisera, ce sont des créatures de Dieu, vous savez que nous, pour manger, il faut semer, il faut moissonner, il y a du travail à faire. Enfin, ça résume un peu tout le travail, hein, l'activité humaine. Alors eux, tranquilles, hein, ils sont dans le ciel, ils se posent quelquefois par terre, mais ils sont souvent dans les airs. Vous savez, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent pas dans les greniers. Vous avez vu les oiseaux qui font... Il y a peut-être des oiseaux qui font des réserves. Moi, je connaissais l'écureuil, mais c'est pas un oiseau, l'écureuil, non ? Non, non. Bon, faut peut-être que je me remette un peu à la page, mais... Voilà. Toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe. Ces petits oiseaux que nous voyons, ils ne se posent pas les questions de dire « mais qu'est-ce qui va se passer demain ?» Ils vivent au jour le jour, hein, tout simplement, et ils n'ont aucune réserve. Nous, on a beaucoup de réserves. Hein, on a des placards qui sont pleins de toutes sortes de choses. On a des réserves à la banque, on a des réserves ceci et cela, et plus on en a, plus on se demande comment ça va se passer. Et pourtant, Jésus nous dit simplement... Mais vous savez que votre Père Céleste les nourrit ? Eh oui. Oh, quelquefois, ils peuvent avoir faim. Hein. En hiver, vous les voyez, ces petits oiseaux qui sont sur le bord de nos fenêtres ou sur nos terrasses. Hein. Ils sont là dans le frimas. Quelquefois, ils sont très gros, mais ce n'est pas parce qu'ils sont gras. C'est parce qu'ils sont gros, parce qu'ils gonflent pour pouvoir avoir chaud, tout simplement. Mais ils ont toujours quelque chose à manger. Hein. Ouais. C'est toujours comme ça. Hein. Alors, votre Père les nourrit, tout simplement. Et puis Jésus d'interpeller ses auditeurs, il dira « Mais ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Vous avez remarqué que Jésus ne donne aucune affirmation, ce sont que des questions, et c'est à nous d'y répondre. Quelle est notre position à nous ? Est-ce que nous voulons croire ce qu'il nous dit ? Est-ce que nous voulons croire à ses principes ? Est-ce que nous voulons essayer finalement de vivre comme il demande de vivre ? Comme il nous l'invite à le faire, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Alors, je ne sais pas si je dois poser la question maintenant. Est-ce que, véritablement, nous nous sentons inférieurs aux oiseaux ? Est-ce que nous pensons que nous ne valons même pas la peine ? Alors, si vous pensez cela, croyez que Dieu est capable, justement, de prendre soin de ces petites bêtes, ces petits animaux-là, tout simplement. Alors, à combien plus forte raison va-t-il prendre un soin particulier pour sa créature humaine ? Et il ajoute à cette parole, « Mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Ou une taille, ça dépend des versions. Mais peu importe, une coudée à la durée de sa vie. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, voyez, de mes doigts jusqu'à mon coude. Ça, une coudée. Ça, c'est encore une question. Parce que tout est fait en question. Mais justement, c'est fait en question, ce message, pour que nous trouvions des réponses. Pour que nous puissions, là... nous-mêmes dire ce que nous avons à dire par notre foi. Alors, est-ce que vous avez vu des gens s'inquiéter et vivre plus longtemps ? Parce qu'ils se sont inquiétés ? Si c'est pour vivre plus longtemps en s'inquiétant, vaut mieux vivre moins et vivre mieux. Je ne sais pas, mais... Moi, vous savez, j'ai vu des gens. J'ai vu des gens dans ma vie. Ils ont passé leur vie... continuellement à s'inquiéter du lendemain ou du jour même. Et je peux vous dire que ça pas aujourd'hui, nous pouvons dire, mais ils ont eu une vie mais médiocre. Parce que, écoutez, la vie, c'est autre chose que cela. C'est autre chose. Et c'est pas parce qu'ils se sont inquiétés qu'ils ont vécu plus longtemps. Ils ont peut-être vécu plus longtemps, mais ils ont mal vécu. Alors, Seigneur, c'est à nous de prendre position. Est-ce que nous voulons de la quantité de jours, de temps, mais des mauvais jours et dans un mauvais temps, ou est-ce que nous voulons véritablement la qualité avec autant de jours et peut-être plus de jours, mais avec quelque chose qui nous réjouit profondément et qui fait notre bonheur ? Toute la question est là. Jésus a raison de dire cela, parce que ça ne change rien. Ça ne change rien de s'inquiéter. Vous êtes d'accord ? Vous êtes timide pour me répondre, parce qu'on y passe tous. Ouais, à un moment ou à un autre, on a tous un souci. Que ça vienne de nous-mêmes ou que ça vienne des autres, de ceux que nous aimons, de ceux qui sont là autour de nous. On s'inquiète, on se dit, mais comment faire pour pas s'inquiéter ? C'est ça, justement. Seigneur, je voudrais bien avoir une vie plus paisible, une vie plus sereine. Mais comment pourrais-je faire ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose ? Oui, il y a quelque chose, ça c'est sûr. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens en dehors de la foi qui se bardent de maximes, de principes philosophiques ou de toutes sortes de raisonnements. Ils se disent, ben voilà, ceci, cela, hein, après la pluie vient le beau temps, enfin toutes sortes de choses, hein, y a de la joie, enfin bon. Ouais, il y a des gens qui chantent « il y a de la joie », mais alors ils sont complètement défaits. Hein. Alors bon, c'est ça, on fait avec ce que l'on peut, hein. Mais nous, nous avons d'autres raisons de faire autrement et de vivre autrement. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, si c'est ça votre problème? Ouais. Les dames sont préoccupées par le vêtement, c'est normal, hein, parce que c'est très féminin, comme, mais quand même. Vous inquiétez pour ceci, pour cela? Vous pensez que vous n'allez pas avoir de vêtements pour cet hiver? Bah, écoutez, pour l'instant, profitez du beau temps, ce qui fait beau. Hein. C'est pas la peine, voilà. Considérez, dira-t-il, comme il l'a fait avec les oiseaux, ces petites bêtes qui vivent, et qui vivent par la grâce de Dieu, je dirais, qui viennent becqueter dans la main de Dieu tout ce dont ils ont besoin. Et vous savez, quelquefois, il y a des temps de disette pour les oiseaux. Mais quand c'est le temps des semailles, quand c'est le temps des moissons, pardon, quand c'est le temps des fruits, je peux vous dire que nos oiseaux, ils ont du mal à décoller. Hein. Oui, mais ils font des réserves. Voilà. Et si l'homme était un peu plus prévoyant, parce que la prévoyance, c'est quelque chose que Dieu bénit, hein. Un homme prévoyant, c'est un homme prudent. Et si nous avons besoin de faire, eh bien, peut-être quelques réserves, ne serait-ce que des réserves morales, des réserves spirituelles, et puis par-dessus le marché, peut-être d'autres, pour les partager avec les autres, ben moi, je dis, c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Et là, on va faire un petit tour dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de la Palestine, parce que c'est un pays où poussent des fleurs. Et il dira, mais considérez, ce n'est plus regarder, parce que les oiseaux, on les voit. Mais là, vous allez considérer, vous allez observer la nature. Et la nature, elle fait de belles choses. Comment croissent les lys des champs? Ils ne travaillent ni ne filent, les autres n'engrangeaient pas, ils ne moissonnaient pas, donc ils ne semaient pas. Mais là, eh bien, ces belles fleurs des champs qui poussent spontanément, sauvagement, eh bien, il ne travaille ni ne file, et Jésus ajoutera, mais je vous dis même, et ça, les auditeurs de Jésus ne l'avaient pas vu, mais ils en avaient entendu parler. Nous, on ne l'a pas vu, mais on en entend parler parce que la Bible nous en parle. Il dira, mais je vous le dis que Salomon même, et Salomon, qui était Salomon? C'était l'homme, en Israël en tous les cas, dans l'histoire de la Bible. C'était en quelque sorte la démonstration du bonheur humain, du bonheur terrestre. Parce qu'il est arrivé au sommet de la gloire. Il avait une sagesse, il avait une intelligence, il avait des palais, il avait des richesses. Il nous est dit à un moment donné que l'or était aussi fréquent que les pierres à Jérusalem. Mais je peux vous dire qu'il y en a des pierres à Jérusalem. Hein. Parce qu'il y avait une prospérité inégalée, et c'était la grâce et la bénédiction de Dieu. Et comme il est question du vêtement, on peut s'imaginer que Salomon, lorsqu'il arrivait dans son palais, vous connaissez le nom du palais de Salomon, c'était la maison de la forêt du Liban. Vous connaissez, c'est dans la Bible. Hein. Tout était lambrissé. Vous savez, le roi étranger qui lui fournissait le bois de cèdre, comment il s'appelait ? Hiram, voilà, le roi Hiram. C'était un roi qui venait de Tyr, hein, je crois. Hein. Voilà, l'actuel Liban. Et imaginez-vous que s'il avait un palais comme ça, s'il avait des jardins magnifiques, luxuriants, s'il avait tout ce que nous connaissons de la vie de Salomon, il n'était pas en jean. Hein. Ah non, il n'était pas en tenue de travail comme les ouvriers. Ça devait être, certainement, il devait être paré d'or et d'argent, Salomon. Avec sa couronne, avec tout ce qu'il pouvait y avoir de somptueux, puisque les rois de toute la terre, tout autour, venaient pour contempler la gloire de Salomon. Et Jésus en parle. Il dira, mais cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, au fait de sa prospérité, de son règne, il nous est dit qu'il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous mettez Salomon avec toute sa gloire et vous mettez une petite fleur de lys. Eh bien, c'est la petite fleur de lys qui va remporter la palme. Eh oui. Et on s'inquiéterait. On va s'inquiéter pour ça. C'est pour ça qu'il est dit considérer. Et dans ce verbe qui nous est proposé, ça veut dire mais réfléchissez un instant. Et c'est ce que nous faisons là depuis une petite demi-heure. Nous sommes en train de regarder, de considérer, d'observer, d'apprécier, de peser et d'en tirer finalement la conclusion qui va venir maintenant. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, s'il nourrit les oiseaux si nombreux dans le ciel, et en revenant donc au lys, s'il revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, parce que ça brûle l'herbe, elle pousse, elle est verte, et puis il suffit qu'il n'y ait plus de pluie, alors à ce moment-là tout va devenir jaune, jusqu'à la racine. Donc ça disparaît, c'est quelque chose qui nous dit que c'est éphémère, simplement. Alors là, à ce moment-là, Jésus va véritablement marquer le fait, il va dire, mais vous les hommes, vous les inquiets, vous qui vous tracassiez, eh bien, Dieu va vous vêtir à plus forte raison, et il ajoute, mais vous êtes des gens de peu de foi. Parce que le problème, il est là. Si on a la foi, on n'a pas peur. J'espère que je ne vous choque pas. Si on a la foi, on est serein. Si on a la foi, on est tranquille. Si on a la foi, on est paisible. Et nous avons de bonnes raisons d'avoir toutes ces choses qui en découlent. Parce que nous savons que celui qui nous le dit, c'est celui qui, eh bien, va l'accomplir. Tout simplement. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur, dira-t-il dans la barque? Pourquoi craignez-vous? Et vous craignez quoi? Vous craignez de vivre? Vous craignez de mourir? On craint les deux. C'est terrible, il y a des gens qui craignent de mourir. Mais écoutez, il y a quand même quelque chose d'autre. Il y a certainement une ligne médiane qui nous permette de bien vivre notre vie, et puis quelque part, nous avons des assurances et des certitudes pour le reste. Ça, c'est vrai. Alors Jésus le rappelle encore une fois au verset 31. « Ne vous inquiétez donc point, et surtout arrêtez de dire. » Parce que le problème, c'est qu'on peut s'inquiéter, mais quand on s'inquiète, on le dit. C'est comme si c'était un défouloir, c'est comme si c'était une maladie qui nous pousse à le dire. J'ai peur, je m'inquiète, je me tracasse. Ça, c'est terrible. Et je veux bien croire qu'il y a des gens qui s'inquiètent et qui ne le disent pas. Mais ils meurent aussi. C'est intériorisé, ils s'empoisonnent. Mais dans la plupart des cas, l'homme est ainsi fait, c'est que nous nous inquiétons et à ce moment-là, nous disons ce qui nous inquiète. Mais plus nous le disons, plus nous renforçons l'inquiétude. Parce que ce sont ceux qui l'entendent qui ne vont peut-être pas forcément nous aider. Je vais voir mon ami, je lui dis que je m'inquiète pour ceci et pour cela. Et lui, il va me donner soit de piètres consolations en disant « Oh, t'inquiète pas », parce qu'il n'en a rien à faire. Ça peut être ça, vous savez, les gens. Ou alors, il va amplifier mon inquiétude. « Tu sais, je crois que je suis malade. » Puis lui, il va vous sortir. « Tu sais, moi j'en ai connu comme toi, ils n'ont pas vécu. » Tu sais, il serait temps peut-être que tu te prépares et puis que tu ailles faire ton testament. Non, mais c'est comme ça, les gens. Si vous tombez sur des gens qui sont optimistes, ils vont vous dire « Bon, quelquefois avec des involtures, mais ça ne vous servira à rien. » Allez, secoue-toi, et ceci et cela. Mais si vous tombez pour des inquiets qui sont encore plus inquiets que vous, mais vous allez voir un peu la contagion que ça va être. Et là, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. C'est pourquoi Jésus dit, mais regardez, écoutez plutôt. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas constamment. Parce que l'inquiet, il parle aux autres, mais il se parle à lui-même. Qu'est-ce que je suis malheureux? Et puis ceci et cela. On ne sait pas quoi inventer pour encore renforcer notre inquiétude. C'est pas vrai? Tout ce qui est négatif dans notre environnement, quand on est inquiet, eh bien nous sert finalement pour nous rendre malades encore davantage. Regardez la télévision, il n'y a que de bonnes nouvelles. Mais c'est vrai, les journaux, oh, c'est formidable. Et ceci et cela, vous questionnez les uns et les autres, vous allez voir un peu, vous allez être démolis, cassés en morceaux, piétinés, laminés. Mais c'est vrai. Et on se fait du mal, On se fait beaucoup de mal. C'est pour ça, Jésus, mais ne dites pas. Vous savez ce que nous devrions dire? Eh bien, nous devrions dire le contraire. Et ça, c'est difficile pour nous dans notre nature pécheresse et notre nature humaine. De dire, eh bien, c'est vrai que j'ai ce problème. C'est vrai que j'ai cette difficulté. Mais moi, j'ai lu dans la Bible que le Seigneur est là pour me secourir. Moi, j'ai lu dans la Bible que si je fais de mon Dieu mes délices, eh bien, il me donnera tout ce que mon cœur désire. Si j'ai besoin de ceci et cela, la parole de Dieu répond aussi à mes préoccupations, quand il est dit de mettre en lui notre confiance, et c'est lui qui agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il y en a des dizaines, des milliers de citations comme ça. Est-ce qu'on n'en avons pas assez ? Seigneur, fais en sorte que dans ma tête, je remette les choses en place. Parce que quelque part, je fais le contraire. Et je me laisse prendre au piège. Et pourtant, je suis chrétien, j'ai la foi, je lis la Bible, je viens au culte, et ceci et cela. Et c'est plus fort que moi, je viens dans le mauvais sens. Ça va ? On ne se reconnaît pas quelque part un peu ? Moi, je me reconnais dans tout cela. Parce que quelquefois, quand je suis pris à m'inquiéter, enfin, un problème ou un autre, je me dis, mais... Puis alors, à un moment donné, je me dis, mais non, tu n'es pas sur la bonne voie. Hein. Parce que je me dis tu, hein, moi. Évidemment. Enfin, je me comprends. Alors... Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Vous avez faim ? Vous avez soif ? Vous n'avez rien pour vous habiller ? Ah bah écoutez, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Parce que là, on tourne en rond. Et vous savez, il y en a un qui s'appelle l'ennemi, l'adversaire. L'adversaire de nos vies, de nos âmes. Lui, il aime bien nous conduire dans le désert pour nous amener à tourner en rond comme ça. Et pendant que nous sommes en train de cuire sur le sable brûlant, eh bien, ça fait son affaire, parce que pendant ce temps-là, nous sommes aucunement opérationnels, efficaces, et nous ne pouvons pas avoir la foi. Vous savez l'histoire des Hébreux dans le désert, hein, c'est pas pour rien, c'est pour nous. Hein. Et vous savez pourquoi ils ont tourné ? Parce qu'ils étaient incrédules. Et on n'augmente pas notre foi lorsqu'on est en train de chercher toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec et qui sont en dehors de la pensée de Dieu. Alors, pour poursuivre, Jésus d'ajouter simplement, car toutes ces choses, alors ces choses en question, c'est le manger, c'est le boire, et c'est le vêtement, et puis toutes les choses matérielles, hein, parce que je crois qu'on peut les classer dans cet ordre-là. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Eh oui, alors, ce sont les hommes sans espérance. Ce sont les hommes qui, peut-être, ont une croyance, mais rien de plus. Ce sont les païens qui les recherchent. Mais Seigneur, je ne suis peut-être pas païen, mais moi je les recherche aussi, hein, parce que j'en ai besoin. D'accord, parce que nous sommes comme les autres, hein. Nous sommes comme des uns. Mais à une différence, c'est que nous avons reçu quelque chose de plus. Et ce plus, c'est que votre Père Céleste, que vous connaissez, qui vous connaît, vous vous rendez compte le terme Père Céleste ? C'est pas votre Dieu perdu dans l'infini. C'est pas un Dieu, là, je ne sais, qui se trouverait dans un endroit ou un autre et qui vous aurait oublié depuis longtemps. Non, c'est votre Père Céleste. Et ce qui signifie, c'est que si j'ai un Père dans le ciel, c'est que je suis son fils ou sa fille. Et les relations ne sont pas les mêmes. Hein. On a tous eu un père et une mère. Moi, j'ai eu un père et je sais qu'il prenait soin de ses enfants. Ça, je peux le dire. C'est vrai. Et petit, eh bien, nous avons confiance dans notre Père. Alors, il y a un petit verbe qui fait la différence, que nous avons besoin vraiment de mémoriser, de garder au fond de nous-mêmes. Votre Père Céleste sait. Il sait, il connaît, il voit, il comprend. Il a la réponse parce qu'il sait, parce qu'il a le savoir de votre situation. Il a la connaissance de votre situation. On n'est pas seul au monde. Que le païen cherche et que se débrouille par mille et toutes sortes de façons et de manières, par lui-même, par la force de son poignet, etc., etc. On comprend, il est tout seul. Mais nous, on n'est pas tout seul. On a notre Dieu. On a notre Père Céleste. Et en sachant que finalement, il connaît notre cas. Alors, il sait que vous en avez besoin. Celui qui m'a donné la vie sait que j'ai besoin d'avoir de la nourriture pour manger, autrement je vais mourir. Celui qui m'a donné la vie, il sait que je peux avoir soif, donc il va me désaltérer. Celui qui m'a donné la vie, il sait que je ne vais pas me promener comme ça. Il va me donner vêtements. Et puis tous les aspects de la vie sont pourvus. Jéhovah Jireh, vous savez ce que ça veut dire ? L'Éternel pourvoira. Celui qui nous a lancés dans la vie, il va nous donner tout ce qui accompagne la vie. Et on n'a rien à craindre. On n'a rien à redouter. Parce que c'est lui qui le sait. Et il sait surtout que vous en avez besoin. Chacun d'entre nous qui sommes là à écouter cette parole cet après-midi, vous avez tous certainement, vraisemblablement, un besoin d'une manière ou d'une autre. Il peut être urgent, il peut être de différents caractères, différentes natures. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu sait que vous avez un besoin, il sait comment y répondre. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Lui, il a la réponse. Alors, il sait que vous en avez besoin, et c'est pourquoi la conclusion de notre petit texte est celle-ci, que vous connaissez, que nous chantons parfois dans un petit chœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus le marché. Vous avez remarqué qu'il y a un petit adverbe. Premièrement. Ouais. La priorité. Où est la priorité chez les hommes? Est-ce que c'est la terre? Les trésors de la terre? Est-ce que c'est nous-mêmes, notre propre vie, notre petite personne? Ou est-ce que, premièrement, est-ce que ce n'est pas le Seigneur en premier? Alors ça va changer tout à ce moment-là. Les choses sont remises en ordre. Et il est question d'une recherche. C'est-à-dire que derrière la recherche, il y a un mouvement volontaire et comme un effort à faire. Vous savez, quand on cherche quelque chose, bah, il faut se déplacer. Hein. Si vous attendez que la chose que vous avez perdue vienne à vous, ça ne marchera pas. C'est surtout si c'est une chose inanimée. Mais là, il y a déjà une détermination de ma part. Je sais que j'ai perdu quelque chose, quelque part dans la maison. Alors je vais me mettre à chercher. Eh bien, c'est la même chose. Je vais me mobiliser pour chercher en priorité. Ça sera la priorité de mes jours. Ça sera la priorité de ma vie. Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, c'est tout un programme. Le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu, vous les trouvez. Vous les trouvez naturellement dans l'Évangile, mais vous les trouvez particulièrement dans un condensé que l'on appelle le Sermon sur la montagne, avec des principes de vie que nous avons étudiés il n'y a pas longtemps. Et des attitudes telles que les béatitudes. Attitudes telles que les béatitudes, oui, c'est cela. Hein? Le comportement, les réactions et des réactions qui sont spirituelles et qui vont faire en sorte que je vais développer ma foi, je vais développer ma confiance en Dieu, et je vais m'attendre à lui. C'est ça, dans le bien comme dans le mal, dans les besoins comme dans l'abondance d'une manière ou d'une autre. Alors, à ce moment-là, ce royaume, cette justice de Dieu, je vais la voir se réaliser. Parce qu'il est de la justice de Dieu, après m'avoir donné la vie, c'est de me donner tout ce qui accompagne cette vie. C'est de sa justice. Parce que Dieu assure. Vous savez, les hommes, quelquefois, ils lancent quelque chose, et puis il n'y a pas de service après-vente. Hein. Mais avec le Seigneur, permettez-moi l'expression, que quand il a donné la vie, il donne ce qui va avec. Même si l'adversaire et le diable essaient de détruire, par exemple, une vie, à travers la santé, eh bien Dieu est celui qui dit, bien, voilà, en raison de ceci et cela, même quelquefois par notre faute, parce que nous sommes parfois les artisans de notre propre destruction, mais le Seigneur est là en disant, oui, toi, je te donnais un capital vie, tu l'as quelque part un petit peu endommagé, mais fais-moi confiance, je suis capable de te relever. Je suis capable de te réhabiliter, de te restaurer. On connaît l'histoire, naturellement. Alors, la justice de Dieu, alors à ce moment-là, si vous lui donnez la priorité, eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout le reste va venir par surcroît, par-dessus le marché. Et ça, c'est l'expérience que les uns et les autres nous avons fait plusieurs fois dans notre vie. Nous nous sommes trouvés dans des situations de difficulté. Et comme nous avons bien compris ce verset, nous l'avons mis en avant, notre Seigneur, notre Père Céleste, et on s'est aperçu qu'en s'occupant de ses affaires, lui, il s'est occupé des nôtres. Ouais, il s'est occupé des nôtres. Moi, je bénis le Seigneur, nous avons eu 3 enfants, pendant des années, pendant 30 ans. Ils étaient petits, ils ont été adolescents et tout ça. On s'est occupé de nos enfants. Mais on a donné la priorité au Seigneur, et vraiment, nous pouvons dire merci Seigneur parce qu'il nous a donné de bons enfants qui ont fait des études, qui ont aujourd'hui des situations. Et on se dit, mais Seigneur, on n'a pas vu passer. C'est toi qui as fait finalement tout cela. Quand on sait qu'il y a quelquefois des parents qui s'inquiètent parce qu'ils veulent la meilleure situation pour leurs enfants et ceci et cela, qui dépensent beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'argent, pour quelquefois avec des résultats qui sont bah, discutables. Bon, je ne juge pas, hein, mais je veux dire que vraiment, nous avons pu le voir et nous pouvons le constater en disant, Seigneur, tu sais, on avait beaucoup de choses à faire dans ton œuvre. On a eu beaucoup d'investissements. On a donné ce qu'il fallait. C'était normal, hein, présence et ceci et cela. Mais on se dit, mais Seigneur, vraiment, tu étais bon avec nous. Hein. Nous, on a pris soin de ton œuvre et toi, tu as pris soin de nous et de notre famille. Ben, merci, Seigneur. Hein. Ça, c'est quelque chose de formidable et on est profondément reconnaissant de cela. Alors, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Hein. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ceci, de cela, mais ne vous inquiétez pas de demain. On est bien aujourd'hui. Hein. Hier, c'était hier. C'est vrai, on a fait des choses hier. On peut avoir des programmes, on peut avoir toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, c'est le temps de vie. Merci Seigneur pour le passé. Merci pour l'avenir que je ne connais pas, mais aujourd'hui je veux vivre pleinement et bien l'instant que tu me donnes. Et c'est là justement où est le problème de l'inquiétude. Parce que quand, excusez-moi, je vais être vulgaire, hein, enfin je vais être trivial plutôt. Écoutez, quand on pourrit son présent avec le passé, eh bien on est en train de gâcher notre avenir. Oui, oui. Dieu nous dit le passé c'est le passé, avec les différentes fortunes qu'il a pu avoir. L'avenir ne nous appartient pas parce qu'il est entre les mains de Dieu et je vais lui faire confiance pour ça. Mais Seigneur, donne-moi de vivre chaque heure, chaque minute et chaque instant, chaque jour de ma vie, maintenant, de le vivre le mieux possible sans m'inquiéter. Et vous savez que ça change tout, hein ? Oh là là, c'est formidable. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, on a bien compris la leçon, elle est fondamentale, elle est essentielle, ce que Jésus nous laisse. Hein. Ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que le lendemain, il aura soin de lui-même. Et vous savez qui va en prendre soin de votre lendemain ? Eh bien, c'est le Seigneur. Je ne veux pas y mettre les mains parce que je vais me tromper. Je ne veux pas y mettre quelque chose à moi parce que finalement, je vais gâcher. Il y a certainement encore des choses merveilleuses que le Seigneur me réserve pour demain. Je ne les connais pas, je n'ai pas besoin d'être inquiet ou impatient de savoir ce qui va se passer, d'une manière ou d'une autre. Mais je sais que, Seigneur, et je sais que mon Dieu, permettez-moi de le dire, il a des idées géniales pour nous. Hein. C'est peut-être un peu osé de dire ça, mais il a des idées géniales. Seigneur, donne-moi de vivre pleinement ma vie, de vivre vraiment comme je dois la vivre, parce que en la vivant de cette manière, eh bien, je ferai la preuve de ma foi, je chasserai l'incrédulité et je te glorifierai. Car le lendemain aura soin de lui-même, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors j'espère que je ne vous ai pas mis en peine cet après-midi. Au contraire, que véritablement vous allez saisir par la foi les paroles de Jésus, parce que ce sont des paroles de vie. Et qui ont une puissance pour notre bonheur, notre bien-être, et qui nous préparent pour l'éternité. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu as dit des choses au monde. Tu es descendu du ciel, Seigneur, pour nous apporter des paroles que jamais homme n'avait entendues auparavant. Et nous comprenons bien ce que voulaient dire les contemporains de Jésus quand ils disaient « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous, les hommes de la fin des temps, les hommes de notre temps, de notre siècle, à combien plus forte raison. En effet, devons-nous, pouvons-nous, en effet, bénir ton nom. Parce que s'il y a eu des générations qui vivaient vraiment avec peu, et où il y avait probablement des sujets de s'inquiéter, Seigneur, pour eux, pour leur famille, pour la nourriture, pour le vêtement, pour ceci et cela, eh bien, c'est vraiment... Certainement, eh bien, ces hommes de ces temps-là, comme il y en a encore des millions, voire même des milliards encore aujourd'hui. Mais nous ne pouvons que nous confondre devant toi. Nous ne pouvons que te demander pardon, parce que, Seigneur, si aujourd'hui nous nous plaignons de ceci, de cela, d'un manque de ceci, d'un manque de cela, de la peur de ceci ou de cela, eh bien, ta parole nous a mis en effet au fait que... Parce que notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. La seule chose, la seule réponse que nous pouvons lui donner, c'est de te dire, eh bien Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter, délivre-moi du tracas, délivre-moi de l'ennui, délivre-moi de l'inquiétude, délivre-moi de mes angoisses et de mes anxiétés, parce que je sais, Seigneur, qu'en toi, j'ai tout pleinement dans la personne de Jésus-Christ. Il m'a parlé, il me donne des promesses, il les renouvelle. Seigneur Jésus, je veux te dire le mot que tu agrées. Seigneur, je te fais complètement et totalement confiance. Merci Jésus. Délivre-moi et libère-moi de mes peurs, de mes inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Puisque si je regarde vers le ciel, eh bien je sais que j'ai un Père Céleste qui détient un trésor pour moi. Merveilleux. Merci mon Dieu. Tu bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs et nous voulons repartir avec la joie au plus profond de nous-mêmes. Pour le trésor qui est le nôtre. Merci Jésus. Amen. Amen.